dans la société malienne, quand ta femme est séropositive, il y a beaucoup d'hommes qui se disent que la femme a été infidèle. Alors que c'est toi qui as amené la maladie dans la maison.
Un jeune homosexuel ignorait que la transmission du VIH-SIDA, c'était d'un homme à un homme. Parce que toutes les campagnes de dépistage, de sensibilisation, c'était entre un homme et une femme.
Pour moi, personnellement, c'est pas grave, cette maladie que j'ai. Parce que ce que j'ai mis dans ma tête, tant qu'on est en vie, un jour, on trouvera le médicament pour guérir simplement.
Éliminer le sida de la planète, c'est possible d'ici 2030, à condition, précise ONU-SIDA, d'investir 7 milliards de dollars supplémentaires par an dans la lutte contre le virus. 7 milliards, pourquoi faire? On pense bien sûr à la recherche pour mettre au point un vaccin, pour élaborer aussi des médicaments permettant de faire disparaître définitivement le virus. En attendant, il y a les indispensables actions de prévention, de dépistage et la question essentielle de l'accès aux soins et du suivi des traitements. Des progrès immenses ont été réalisés sur les 36,7 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Près de 21 millions ont aujourd'hui accès à des traitements antirétroviraux. C'est presque trois fois plus qu'en 2010. Un meilleur dépistage des femmes enceintes a permis de limiter la transmission du virus aux enfants. Mais chez les adultes, le rythme des nouvelles contaminations n'a que faiblement diminué ces dernières années et l'Afrique concentre deux tiers de ces nouvelles infections. Au sein même du continent africain, il y a de grandes inégalités. Les pays de l'Ouest et du Centre sont beaucoup plus touchés. Pourquoi ? Et quelles sont les actions menées pour rattraper ce retard, nous avons cherché à le savoir en allant à Bamako. La société malienne face au sida, combattre les préjugés, c'est un magazine signé Tarache Légal. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous accueillons dans le studio de France Culture Françoise Barré-Sinoussi. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez reçu le prix Nobel de médecine en 2008 avec Luc Montagnier pour la découverte du virus de l'immunodéficience humaine. Tout le monde le sait, mais je le répète quand même. Vous êtes aujourd'hui retraitée après avoir été directrice de recherche à l'INSERM, professeure à l'Institut Pasteur et depuis peu, vous présidez le SIDAction, association qui finance la lutte contre le sida. Notre deuxième invité est Bruno Spire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, directeur de recherche à l'INSERM. Vous travaillez sur la prévention du VIH et la qualité de vie des personnes vivant avec le virus. Vous êtes président d'honneur de l'association AIDE que vous avez présidée de 2007 à 2015. Tous les deux, vous interviendrez après avoir écouté le reportage de Tarache Légal. Bonjour Tara.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes partie à Bamako avec Coalition Plus, un réseau international d'associations de lutte contre le sida, dont AIDE fait partie d'ailleurs. Au Mali, il y a encore de vraies difficultés d'accès aux soins.
Oui, le taux de prévalence du VIH au sein de la population malienne est de 1%. On dit qu'il y a environ 110 000 séropositifs, mais seuls 35% de ces malades ont accès aux trithérapies. À titre de comparaison, en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est, 60% des personnes infectées sont sous ARV. Au Mali, nous avons approché ces enfants, ces adolescents, ces femmes grâce à Arcade Sida, une association qui s'occupe de plus de la moitié des personnes dépistées et qui se soignent au Mali. Le combat d'Arcade a commencé en 1994 contre l'avis même du gouvernement à l'époque, une poignée de médecins comme Bintou Keïta Dembélé, qu'on va entendre lors du reportage, allaient soigner à domicile ces malades stigmatisés. Ils étaient directement associés à la lutte par Arcade. Aujourd'hui encore, ils sont partie prenante de cette lutte. Comme père PAIRS éducateur, ils sensibilisent leurs semblables. Des prostituées parlent aux prostituées, des homosexuels parlent aux homosexuels. Des adolescents infectés par leurs propres parents se retrouvent pour évoquer leur vie avec le VIH. Ce n'est pas forcément triste, c'est même souvent festif, comme lors de ce week-end thérapeutique à Bamako, où, sous un grand chapiteau en paille, ils étaient une trentaine jeunes.
Et vous avez rencontré Fanta, une jeune fille de 19 ans.
En 2015, le 12 novembre 2015, j'ai fait l'analyse et ça a été positif. Quand même, ça m'a fait très mal. Je me suis sentie très mal et désespérée, disons. Parce que je me demandais comment je ferais mes études. Est-ce qu'un jour j'aurai un mari à moi? Est-ce qu'il me resterait même des temps à vivre ma jeunesse, puis à être vieille? Ceci, c'est là quoi. Je me posais chaque jour des questions. Je suis restée 2 semaines sans manger. Même si mes amis venaient, je leur disais que je n'avais pas envie de sortir. J'étais désespérée. Mais grâce au conseil des médecins et à l'aide des camarades d'ici, quand eux ils m'ont parlé de leur parcours, les jeunes filles qui ont le même âge que moi, donc je me suis dit, ah, je ne suis pas la seule fille à être dans ce cadre-là. Donc je ne dois pas me désespérer, je dois me forcer sur une chose maintenant, commencer à bosser. Donc j'ai commencé à bosser et j'ai eu mon bac finalement, avec mention bien.
Quand tu as eu ton résultat positif, c'est le docteur Anta qui t'en a parlé?
C'est elle qui m'en a parlé à l'hôpital Gabriel Thuilleux parce qu'elle a su être une mère pour moi, quoi. Elle m'a conseillé, elle m'a dit des trucs là qui m'ont vraiment apaisée. Parce que quand elle me parle, je me sens libre et confiante en moi-même, quoi. Donc je suis venue au CESAC pour continuer le traitement là-bas.
Qu'est-ce qu'elle a dit ta maman quand tu as parlé de tes résultats?
Oui, ma maman aussi, elle s'est sentie mal, quoi. Parce qu'elle ne voulait pas que l'un de ses enfants ait ce qu'elle a. Elle aussi, elle a su qu'elle était séropositive. Donc, elle savait ça, mais elle ne voulait pas me dire pour ne pas que je me sente mal. Parce que souvent, quand moi, je la vois triste, moi aussi, je me sens triste. Donc, c'est en 2015 même que j'ai su que ma maman aussi était infectée.
Et elle ne pensait pas que toi, peut-être, tu étais malade, ta maman?
Elle ne pensait pas ça. Comme elle aussi, elle n'a pas fait des études. Donc, elle n'a pas su. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit un mot.
Si vous voulez voir un beau pays, si vous voulez voir un beau pays, allez-y là-bas, à Bamako, la capitale du Mali.
Après les chants, c'est le temps des échanges, aux côtés du médecin Dr Anta Kouaïta Diallo, venu animer ce week-end thérapeutique.
Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Donc on a eu à discuter de ça aussi ce matin, la différence qu'il y a entre l'adolescent malade et l'adolescent non malade. Bon, encore, pour ceux qui sont malades et qui ne prennent pas les médicaments, on les a dit aussi, il y a de ces enfants qui sont rabougris. Ils sont petits par rapport à leur âge. Donc ça va amener un repli sur soi. Donc on a eu à discuter de ça aussi. Donc ils m'ont parlé aussi, on les a demandé par rapport à l'observance, est-ce qu'ils prennent bien les médicaments, pour qu'ils ne prennent pas les médicaments. Donc on a constaté que quand même la majeure partie, les 90% ne prennent pas correctement les médicaments. Donc on va les demander eux-mêmes, ils vont expliquer leurs problèmes par rapport à ça. Lui, son nom c'est quoi?
Adama.
Qu'est-ce que tu voulais dire?
Parce que ma grand-mère ne sait pas à quelle maladie moi j'ai. Un jour, je prends mon médicament, ma grand-mère, il est venu, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai dit, je prends des médicaments. Quel médicament? Moi j'ai dit, le médicament qui sert à guérir la tête. Il a dit non. Moi, j'ai fermé la porte. Et puis, il est parti.
Ta grand-mère, elle ne sait toujours pas que tu es malade?
Non. Parce que si elle cherche, elle va dire comment je ne t'approche pas.
Tu crois ça?
Mm-hmm.
Mais peut-être elle va aussi dire que ce n'est pas grave, que tu dois te soigner, qu'elle va bien s'occuper de toi.
Ma grand-mère est docteur.
Elle est docteur?
Et mon père est docteur. Et mon papa, il a vérifié son sang. Il a dit qu'il n'a pas le sida. Que c'est moi, que j'ai trouvé à ma mère.
Et ça, c'est vrai? C'est ta maman qui était malade et toi, tu es malade? Mais ton papa, il n'est pas malade?
Ma mère est morte. Il y a 14 ans, c'est là.
Ta maman, elle est morte?
Oui.
Mais tu as ta soeur jumelle, c'est ça?
Oui.
Tu dis que tu as fait combien de semaines sans prendre les médicaments?
Deux mois et quelques.
C'est vrai qu'il y a le non-partage de statut, parce que tout récemment, c'est la grand-mère qui a déménagé chez elle. Donc, dans ces trois derniers mois-là, il a fait deux mois sans prendre les médicaments sur trois mois. Donc, c'est qui est trop. Donc, qu'est-ce que tu vas faire désormais? Bita Bolé, quoi faire à partir d'aujourd'hui? On a tout vu. Donc, à partir d'aujourd'hui, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Il y a quelque chose de 600.
Je vais prendre mon médicament toujours. Je n'oublierai jamais.
Tu n'oublieras jamais, ok.
Parce que le jour où je ne prends pas, je tomberai malade, quoi. Beaucoup. 16 ans.
Il a 16 ans et pourtant il en paraît à peine 10, ce petit garçon. Comme beaucoup de ses camarades qui sont 99% à avoir, pendant une semaine au moins, oublié de prendre leur trithérapie au cours du dernier mois. Cette prise régulière des traitements est l'un des grands défis à relever pour Bintou Keïta Dambélé. Elle est l'une des médecins fondatrices d'Arcade Sida dans les années 90. Aujourd'hui, elle dirige l'ONG.
Un enfant séropositif qui naît avec le VIH-Sida, ce n'est pas un enfant qui vit normalement. Parce que déjà, la première difficulté, c'est naître dans une famille où on a tout un tabou, tout un silence autour de son statut. Donc déjà, cet enfant-là, l'alimentation de cet enfant-là, dès sa naissance, est problématique. En ce moment, très peu d'enfants, ce n'est pas la proportion, mais très peu d'enfants arrivent à l'âge d'adolescent. Oui, très peu d'enfants arrivent à l'âge. La plupart de ces enfants-là sont décédés avant d'avoir au moins 10 ans. Ce n'est pas seulement les traitements antirétroviraux. Parce que souvent, très souvent, vous allez les voir, vous allez comprendre que la plupart de ces enfants ont perdu soit les deux parents, soit un enfant, soit un parent. Ils vivent souvent avec des substituts parentaux. Et souvent, ces substituts parentaux, ils apprennent que la personne, l'enfant dont ils doivent s'occuper, parce que c'est comme ça chez nous en Afrique, est infecté par le VIH-Sida. Et j'ai souvent l'habitude de dire que l'État a joué sa partition en rendant les médicaments gratuits. Mais la difficulté, c'est souvent au niveau communautaire, au niveau familial, où finalement, on craint des fausses craintes que l'enfant ne transmette le VIH-Sida au reste des enfants de la famille. Donc souvent, voilà, il y a encore des... Souvent, cet enfant-là est marginalisé.
Pour éviter ces drames, le dépistage des femmes enceintes est une priorité absolue pour les militants d'Arcade, comme pour les médecins de l'hôpital Gabriel Touré.
Donc on est ici au pavillon gynécologie obstétrique, le grand hôpital de Bamako, dans une... cour intérieure. À l'ombre quand même, il y a une trentaine, je dirais, de femmes habillées tout en boubou, pleines de couleurs, avec très souvent leur bébé qui doivent attendre leur consultation. Bonjour madame.
Oui, bonjour. C'est l'unité PTMMM, prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Moi, c'est Madame Moulogali Diallo, je suis sage-femme. Toutes les femmes qui arrivent ici quand même, moi je les dépiste. Quand elles rentrent, on fait le consuline d'abord, on fait un petit consuline. Si la patiente accepte, je fais immédiatement son test et je lui donne son résultat sur place.
Sur place, vous donnez
sur place, oui.
Immédiatement.
Immédiatement, on fait le consuline, ça prend au maximum 10 minutes. Si la femme coopère souvent, parce que tu rentres, ça ne vaut même pas le temps que vous êtes là. On se salue, on se présente. Et je demande si elle n'a jamais entendu parler du sida. Elle dit ce qu'elle en pense. On se complète. Je dis d'accord, moi je suis là pour faire le dépistage. Et généralement, elles acceptent toutes.
Le premier test, il prend même pas 10 minutes.
Donc non, c'est le détermine. C'est le détermine, voilà. Voilà le test ici.
Dans un petit sachet
Ça vient comme ça. Voilà les aiguilles. Je pique tout simplement les doigts, oui. L'index, et puis c'est fini, quelques minutes.
Et celui-là, vous l'avez toujours? Il n'y a jamais de rupture de stock?
Jamais de rupture de stock. Il est fiable. Parce que je n'ai jamais fait de test qui a été positif et qu'on parle pour la confirmation. D'accord. Et que ce soit négatif. Je ne l'ai jamais eu.
Et elles réagissent comment, les dames, quand vous leur dites si c'est positif?
Comme ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui comprennent, il y en a... se mettre dans tous les états souvent, mais Dieu merci, avec mon petit don là, j'arrive à les canaliser, on se comprend mieux. C'est vraiment ce que j'explique généralement aux parents. Je dis, vous êtes là, Dieu a fait que vous avez été atteint de cette maladie. Est-ce que vous souhaitez que vous mettiez au monde un enfant dès sa naissance qui a cette maladie et va faire toute sa vie? Et vous aussi, vous allez passer toute votre vie, chaque jour vous êtes à l'hôpital en train de vous occuper de cet enfant. Ça va faire en sorte que vous-même, vous n'allez pas pouvoir mener d'autres activités. Ça va jouer sur vous psychologiquement. et socialement, c'est comme ça, ils comprennent, ils disent oui. Et si vraiment, vous dites que si on suit vos conseils, l'enfant là va sortir sain et sauf, j'ai dit, il n'y a aucun problème si vraiment vous suivez. C'est comme ça, ils acceptent de prendre les ARV. Et il y a ces femmes-là, même, ils m'ont même arrivé de les demander s'ils peuvent appeler leur congé. Parce que moi, vraiment, que depuis la dame et qu'elle soit positive et que son congé ne soit pas au courant, ce n'est pas du tout facile. Je les incite toujours à faire appel à leur mari. Et généralement, tous les cas positifs que j'ai trouvés ici, ils appellent leur congé, ils viennent. On discute également, j'ai fait aussi leur test. Les conjoints qui sont arrivés chez moi ici, quand même, vraiment, Dieu merci, j'ai pas eu de problème avec eux.
L'optimisme de Molobali Diallo, qui dans son service accueille 270 femmes séropositives chaque année, est peut-être à pondérer. C'est du moins l'avis de Bintou Keita Dambélé, que nous retrouvons dans le jardin d'Arcade Sida.
Nous savons que dans le contexte où nous sommes, un contexte social particulier, il existe la polygamie. Ça veut dire qu'une femme infectée ou un homme infecté peut, je dirais, légalement transmettre la maladie à 4 épouses. Alors que dans notre société, autant le multipartenariat est toléré chez l'homme, autant la femme, elle est souvent, très souvent brimée. Cette femme-là, qui n'a pas de ressources suffisantes, qui n'a pas souvent droit à la parole, parce qu'elle n'apporte pas grand-chose à la famille. Tout ça, ce sont des facteurs qui ont fait le lit de la maladie. Il fait qu'une femme qui est infectée par le VIH-SIDA a plus de chances d'être découverte parce que c'est elle qui va faire les enfants, donc elle va à l'hôpital plus souvent que le mari. C'est elle qui accouche, donc c'est, voilà, elle a une autre occasion d'être découverte. Et très souvent, on assimile le fait d'être découverte la première comme étant celle qui a amené la maladie. Elles sont stigmatisées, elles sont répudiées. C'est ça qui est terrible. Souvent, il y a des femmes aujourd'hui. Nous avons fait un petit projet d'accompagnement de ces femmes dans des petits groupes de soutien, de groupes d'échange, de discussion sur le partage du statut sérologique. Mais il y en a parmi elles qui disent, aujourd'hui, moi, je vais mieux parce que je prends correctement mon traitement, je n'ai pas de problème. Mais si jamais mon mari apprend que je suis infectée, comment les choses vont se passer? Comment les choses vont se passer? Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va me répudier? Où est-ce que je vais partir avec mes enfants? Et c'est cette réponse-là qui te disent, quand tu leur dis, il faudrait que tu amènes ton conjoint pour qu'on fasse le test. C'est pourquoi il est important que les hommes nous accompagnent. Cette histoire-là ne peut pas se résoudre uniquement en faisant la sensibilisation et la prévention lors des CPN, lors des consultations prénatales. Ce n'est pas possible d'endiguer la transmission mère-enfant du VIH-SIDA sans que les hommes nous accompagnent. C'est pourquoi nous, en tant qu'ONG militants, nous avons pris des initiatives pour aller discuter, faire des groupes d'échange avec les hommes. Parce qu'on s'est dit, c'est par eux que ça commence. C'est ce combat-là que nous faisons. Vous avez vu le papa modèle. Donc on ne peut pas aller vraiment à l'élimination du VIH-SIDA sans impliquer tout le monde.
Ici, on est chez Papa Modèle, c'est ça?
C'est une salle de classe, ça c'est la classe de 6e.
Oui. Donc on est dans une école?
Dans une école.
C'est là qu'on va tenir la réunion en fait?
Oui, c'est dans la salle qu'on va tenir la réunion. Plus facile parce qu'il y a des tables bancs à l'intérieur. Donc les gens viennent s'asseoir tranquillement et puis le débat commence, les échanges. Voilà.
Échange mené par Ousmane Traoré, assistant médical au CESAC, l'un des centres d'Arcade Sida, devant un parterre d'hommes exclusivement, à l'exception d'une militante, Ndié, qui s'exprimera courageusement tout à l'heure.
Il y a un débat d'amener. Avant de commencer le débat, je vais vous poser une question. Maintenant, comme on est dans le cadre du VIH-SIDA, quelle est l'importance même des hommes dans la prise en charge même?
Donc, qui va nous donner Fragatoni?
Il faut faire le test ensemble, s'il le faut, pour que l'on sache qui est positif, qui ne l'est pas. Puisque,
en un mot, voilà. Faut pas faire les gendarmes.
Voilà.
Tu amènes ta femme à l'hôpital, c'est ce qu'il veut dire. Maintenant, toi-même, le test, c'est commun. L'homme fait le test, la femme aussi fait le test. Maintenant, si vous êtes tous séronégatifs, comment entretenir la séronégativité? Parce que la séronégativité aussi, ce n'est pas un vaccin. Quelles sont les mesures de prévention?
Bon, au cas où on foyer qu'on a, et bien protégé, il nous sera protégé. Mais au cas où on a testé que, n'a testé que ailleurs qu'à faut tenir là, à ta flash là.
Et il a dit, si l'homme est négatif, la femme aussi est négative. Donc, vous continuez avec votre fidélité. Voilà, il met le point sur le point fidélité. Hein? Donc, même si la fidélité n'est pas à tout à fait 100%. Oui.
Je crois que, à défaut de la fidélité, on se contente aussi de préservatifs. Parce que parfois, l'homme se trouve dans une position un peu à gauche. Et pour cela, je conseille tout homme, sur des circonstances pareilles, d'aller consulter les médecins. Aller faire tout de suite les tests. Parce qu'on ne peut pas obliger tout le temps au partenaire d'aller faire les tests. Tu ne peux pas l'obliger. Ça, c'est occasionnel.
Voilà, si c'est un rapport occasionnel,
voilà.
Toi, tu es à Yelemani, tu es venu à Bamako, tu as pris un risque. Merci. Tu vas faire les tests, voilà. En même temps, tu prends ton traitement. Parce que tu ne sais pas si ton partenaire est séropositif ou pas. Ok? Oui? Contribution, Ndi?
C'est possible.
Oui, c'est possible, Ndi.
Voilà. D'accord. Et en fait, je voulais contribuer à ce débat. C'est-à-dire, au Mali, généralement, bon, je dirais que. Je vais te donner une estimation. 80% des hommes qui sont mariés ont une petite copine à côté. Donc du coup, toi, tu ne peux pas maîtriser ta copine. Tu ne peux pas dire que ta copine ne peut pas fréquenter un autre homme, par exemple. Parce qu'elle n'est pas chez toi. Mais celle qui est chez toi, c'est elle ta femme. C'est elle qui te respecte et qui t'honore, en fait, qui est soumise à la maison. Donc du coup, ça amène un problème. Le côté infidélité, par exemple, quand tu es marié et que tu as une petite copine à côté, le mieux c'est de se protéger étant dehors avec ta copine. Parce que tu ne sais pas si elle est infectée ou pas. Donc, du coup, quand ta femme tombe enceinte et que toi tu l'accompagnes à l'hôpital et que la femme est séropositive, il y a beaucoup d'hommes qui se disent que la femme a été infidèle. Alors que c'est toi qui as été infidèle d'abord. En fait, c'est toi qui as amené la maladie dans la maison. Donc les femmes ont d'une part peur de partager leur statut avec leur mari et il y a la honte aussi. Parce que dans la société malienne, quand une femme a le VIH, directement on dit que tu as fréquenté plusieurs hommes à la fois, c'est ça qui a amené ça. Même quand tu es marié, on dit que non, c'est une femme qui n'est pas du tout fidèle. Donc généralement c'est la femme qui est beaucoup plus victime dans un couple. C'est ce que je voudrais dire comme contribution.
À la sortie, Alassane Diakité, qui est agronome de formation, et Ali Badra Komé, qui préside le comité de développement du quartier, reviennent sur la discussion.
Tout à l'heure, quand on a parlé de fidélité, en disant qu'il fallait être fidèle quand on était séronégatif, pour ne pas apporter le sida dans le couple, tout le monde rigolait. Pourquoi ?
Bon, en fait, c'était pour chahuter quelques amis qui sont dans la salle. Mais en même temps, ça permet de faire passer un message aux jeunes. Parce que la fidélité, les jeunes ont tendance à penser qu'on peut faire n'importe quoi. C'est très répandu. Donc c'est une manière pour moi de faire passer le message. Quand on est marié, il faut être fidèle, même quand on est jeune.
Mais Ndié disait qu'il y a 80% des hommes au Mali qui sont infidèles.
Bon, infidélité, c'est, je dirais même que ce n'est pas seulement qu'au Mali. Ici, il est mal vu, quand on est marié, d'avoir une relation adultérine. L'adultère est très très mal perçu ici.
Même pour les hommes?
Oui, même pour les hommes. Quand vous êtes un homme marié, on préfère la polygamie que l'infidélité. Parce que quand vous êtes polygame, on est un pays musulman. Donc, c'est autorisé d'avoir plusieurs, mais des épouses. Et donc, vous n'avez pas le droit, en dehors de vos épouses, d'avoir des relations avec d'autres femmes qui ne sont pas vos épouses, que vous n'avez pas mariées. Que quand vous ne mariez pas une femme, vous ne devez pas avoir des relations sexuelles avec celle-là. C'est très, très mal vu. Il faut épouser la femme, avoir des relations et avoir des enfants. Voilà.
Mais Andy, elle disait qu'il y avait 80% des hommes qui sont infidèles, donc elle dit des bêtises.
Non, pas qu'elle dit des bêtises. Les hommes ont aussi des maîtresses ici, hein, mais seulement quand il doit être polygame, il faut avoir les moyens d'entretenir. Lorsque vous n'avez pas les moyens d'entretenir deux ou trois femmes, forcément, ça va rester comme des maîtresses aussi.
Mais moi, je pense que 80% c'est trop excessif. 80% c'est trop.
Ouais. Juste, je voulais... Donc vous avez une épouse?
J'ai une épouse seulement.
Et est-ce qu'elle a passé un test pour voir si elle avait le VIH?
Non, elle ne l'a pas fait d'abord. Et moi non plus. Mais bientôt, je vais le faire. Et si possible, amener madame aussi.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant?
Parce que, comme je l'ai dit, les gens ont des arrière-pensées. On pense qu'on ne peut pas être contaminé, on ne peut pas attraper. Bon, alors que rien ne prouve qu'on est sain. Rien ne prouve qu'on est sain.
Et vous, monsieur, vous avez fait le test VIH?
Oui, j'ai fait le test. Bon, avant que ma femme ne tombe en grossesse.
Et tout le monde va bien?
Oui, tout le monde va bien. Madame va bien, moi je vais bien, ma fille aussi. J'ai pas de problème. Bon, le problème d'infidélité, je connais pas parce que je ne suis pas comme ça. Dieu merci. Quand je suis avec une femme, si elle me donne satisfaction, je ne me sens pas dans le besoin d'aller voir ailleurs. Si elle me donne satisfaction, pourquoi aller voir ailleurs? C'est quand ta femme ne te donne pas satisfaction, peut-être que tu peux être tenté d'aller à gauche ou à droite. Mais si tu es comblé par ta femme, pourquoi? Je ne vois pas de raison.
Pour espérer enrayer l'épidémie qui touche au bas mot 100 000 hommes, femmes et enfants au Mali, pour arriver surtout à dépister tous les séropositifs qui s'ignorent encore, il faudra que les mentalités changent et cela ne concerne pas seulement l'égalité hommes-femmes. Bintou Keïta Dembélé.
Si tu fais une comparaison entre maintenant et avant, les jeunes, ils sont mieux informés. Mais ça n'empêche pas d'être contaminé parce qu'il y a toute cette population qui est là, qui sont contaminés. Les 1000 premières infections, ce sont les jeunes gays. Ils sont ici aussi à Bamako. Donc il y a un gros travail encore qui doit être fait auprès de cette population-là, qui est souvent clandestine, qui ne sort pas. Je me rappelais avoir demandé à un jeune homosexuel qui était dans le fin fond d'un village qui ignorait que la transmission du VIH-Sida, c'était d'un homme à un homme, parce que toutes les campagnes de dépistage, de sensibilisation, c'était entre un homme et une femme. Voilà des choses comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le jour d'aller faire une campagne de sensibilisation en parlant de l'homosexualité.
On ne peut pas le faire?
Pas le grand public, non. Aujourd'hui, c'est très sensible de parler des populations clés, c'est sensible de parler des hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes. La prévalence au niveau de la population générale est de 1%. La prévalence au sein des hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, c'est 13%. La prévalence au sein des travailleurs de sexe, 24%. Au sein des usagers de drogue injectable, 5%. Donc c'est des prévalences qui démontrent qu'on ne peut pas aller à l'accès universel en laissant une partie de la population derrière. Qui est le client de la travailleuse de sexe? Qui? Est-ce que c'est les charretiers ou bien c'est l'homme d'affaires, le fonctionnaire international qui... Tout le monde est client de TS. Et mais tant que tout le monde est client de TS,
on est travailleuse
de sexe, on ne peut pas aller à la lutte contre le sida auprès de cette population en disant non, il faut qu'on laisse les travailleuses de sexe parce que c'est des gens de mœurs légères. Mais ce sont des moyens aussi pour contaminer la population générale. Donc, vu le contexte social, culturel, religieux, il est difficile de parler de ces questions-là. Mais ces questions-là, ce sont des questions éminemment importantes. Très important. Une femme qui s'infecte, oui, il y a moins de tabous parce qu'aujourd'hui, les personnes se sont affichées. Mais en ce qui concerne la travailleuse de sexe, en ce qui concerne l'homme qui a le sexe avec d'autres hommes, on ne peut pas dire que ces personnes-là sont affichées. Elles ne sont pas affichées. Ils existent. Nous menons des interventions auprès de ces personnes, mais ils ne sont pas affichés pour l'instant.
Depuis août 2010, Arcade Sida a ouvert un nouveau centre de soins, modeste immeuble baptisé la Clinique des Halles, situé en face de ce grand marché à moitié désert. 700 personnes sont soignées ici chaque année. L'établissement ferme tard pour s'adapter aux horaires des prostituées et des homosexuels. Les jeunes hommes que nous rencontrons veulent rester anonymes.
Voilà, venez.
Ma sœur sait que je suis un homosexuel. Parce que j'étais enfermé en prison à cause de mon orientation sexuelle. J'ai fait une nuit là-bas même. Je ne me sens pas bien dans les prisons. C'était ma première fois, j'ai pleuré. Bon, je ne vais pas dire à personne que j'étais aux prisons. C'était un ami Facebook qui m'avait dénoncé. Oui. Il disait que tu es homosexuel, tu les dragues. Bon, il dit qu'il me met dans les prisons. Ma famille ne sait pas que je suis dans les prisons.
Mais est-ce que c'est criminel d'être homosexuel? Est-ce que les policiers, ils ont le droit de vous mettre en prison?
Bon, ils n'ont pas une loi pour me mettre dans les prisons. Parce que, est-ce que tu vois, sinon il n'y a pas une loi votée contre l'homosexuel au Mali. Bon, j'étais dans les prisons. Le lendemain, ma sœur est venue pour échanger avec le commissaire comment on fait, quelles solutions. Ils ont proposé une somme aussi. Ils ont payé ça. Je suis libéré comme ça aussi. C'est à travers ça que ma famille sait que je suis homosexuel.
Mais qui est-ce qui lui a dit? C'est la police?
Oui, c'est la police qui disait que je suis homosexuel à la famille. Toute la famille m'invite pour m'asseoir, que je dis devant tout le monde que je suis homosexuel, je drague les gens.
Quand tu dis, ils t'ont demandé de t'asseoir pour le dire à toute la famille, ça s'est vraiment passé comme ça? Ils t'ont
ça, c'était un regroupement de la famille même.
Conseil
de la famille. Mes frères, tous mes frères sont là. Il disait que je suis homosexuel, je drague des gens. Si tu vois un mec chez moi, il vient pour faire une plan cul.
Donc ça veut dire qu'ils t'ont aidé à sortir de prison, mais oui. En même temps, ils désapprouvent ton attitude.
Oui. Toujours des mauvais conseils, des stigmatisations. Même s'il y a un événement dans la famille, une cérémonie ou un mariage à la famille, bon...
On ne t'invite pas?
Non. Souvent, ils ne m'invitent pas parce qu'ils savent que je suis un homosexuel. Même les repas, si ça a été prêt, souvent, ils ne m'ont pas à côté. Mais souvent, ils me clashent comme ça parce que c'est moi qui est en train de perturber toute la famille. Moi aussi, je fais comme je ne l'entends pas. Parce que je sais que depuis que je suis enfant... Je suis avec mon orientation sexuelle, mais je ne savais même pas que je suis un homosexuel, comment pratiquer. Mais tout va bien maintenant. À travers Arcade Sida, on trouve beaucoup d'informations. Et puis des estimes de soi aussi.
Une estime de soi que Ousmane Traoré, l'animateur de Papa Modèle, les aide à recouvrir malgré la stigmatisation qui les poursuit.
Bon, oui, dangereux d'être homosexuel, oui, parce que c'est une population, sinon une société hostile, n'est-ce pas, à la pratique. Tout à l'heure, ça m'a surpris, on était à Arcade. Un professeur, je suis en train de vous parler d'un professeur en médecine, en gynéco, qui était en train de me former tout de suite, parce qu'on va démarrer prochainement une étude de papillomavirus chez les travailleurs du sexe. Ok? Donc, hier... Il a parlé d'une façon, j'ai essayé de réagir. Aujourd'hui, il est revenu et il est catégorique. Il me dit, le président de la République aujourd'hui, il va ramasser tous les MSM, les hommes qui ont des rapports sexuels avec deux hommes, il va les donner des fessées jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas s'asseoir sur leurs deux fesses et ensuite il va leur donner aux policiers pour qu'ils les mettent en prison. Il l'a dit hier, aujourd'hui, il l'a dit devant moi. Il dit que non, toi là, au lieu de mettre de l'argent dans le truc là, va, il faut vacciner les enfants, la mortalité maternelle. J'ai dit, mais professeur, regardez, les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, la prévalence du VIH est de 13,7, la population générale 1,1. Vous êtes gynécologue, c'est pourquoi vous parlez d'enfants, vous parlez de cancer du col. Moi, je sais là où il y a le VIH. Si nous ne faisons rien, si nous restons dans notre coin parce que la prévalence elle est à 1,1, donc ça va, mais ça va retourner contre nous. Mais il ne m'a pas écouté. Il réfléchit comme ça. Il veut dire, c'est-à-dire que si tu me donnes le pouvoir aujourd'hui, ces gens-là n'existeraient pas. Simplement, moi, j'ai compris comme ça. Il dit que c'est contre nature. C'est-à-dire que lui, il ne réfléchit même pas. Il ne veut même pas réfléchir. Un professeur en médecine, ce n'est pas n'importe qui. C'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que si lui, il parle comme ça à ses élèves-là, hein, qui sont de la même promotion que moi, etc., ils ne vont jamais vouloir prendre en charge un HSH, un homme qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes. C'est fini, un professeur-là. J'ai dit, c'est grave. Mais mes collègues me disent, non, il ne faut pas polémiquer. D'accord. D'accord, mais c'est grave. Donc, c'est pour vous parler un peu du contexte. Dans la famille des HSH qui vivent chez eux, la famille sait que vraiment tel est homosexuel, accepté dans la famille, 2% maximum La famille sait, notre enfant est homosexuel, nous l'acceptons comme ça, nous le défendons. Non, ça ne vaut pas les 2%. Parmi toutes ces personnes que je connais là, je n'en connais même pas. Je n'en connais pas. C'est très rare ici. Donc les gens se cachent, les gens se marient. Moi, je connais personne. Je suis avec ces jeunes-là depuis 2006-2007. Donc ceux qui avaient 20, 21, 22 ans qui ont l'âge de se marier aujourd'hui, je les ai vus évoluer, se marier, avoir des enfants, d'autres contaminer leur épouse. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux faire?
L'État malien a mis beaucoup de temps à reconnaître le travail des militants d'Arcade Sida qui soignent pourtant 22 000 malades dans leurs 18 centres à travers le pays. L'ONG reçoit l'essentiel de ses financements du Fonds mondial de lutte contre le sida. C'est l'institution internationale qui fournit les médicaments, paye les 2/3 des salaires. Seuls les locaux d'Arcade et les travaux qui y sont prévus sont financés par les autorités nationales. Bintou Keïta Dambélé.
Le gouvernement mondial contribue à hauteur de 20%. Ce n'est pas assez. C'est loin d'être suffisant. Nous, on est là, les patients sont là, on est en train de nous dire non, l'État malien va s'investir. Ça fait 8 ans, par exemple, que l'État malien dit nous allons créer un fonds de solidarité pour la lutte contre. 8 ans que ça existe. Ça fait 3 ans que nous avons un programme d'élimination de la transmission mère-enfant qui n'est pas financé. Comment voulez-vous que le sida pédiatrique puisse être vraiment quelque chose, un combat fort? Il y a aujourd'hui 2800 enfants qui sont soignés. C'est 2800 enfants qui prennent des traitements antirétroviraux. Et parmi ces 2800, Arcade soigne 46%, environ 1300. Nous, nous faisons le maximum. Et c'est ça qui est terrible. On est en train de dire qu'au Mali, où vit, c'est possible. La fin du sida est possible. Hein? De ma petite chaise assise ici, je vois la fin du sida. Mais j'ai besoin de plus de moyens. J'ai besoin de plus d'engagement politique. Il n'est pas acceptable que mon pays continue encore à être assisté et que mon pays ne offre que 20%. Des fois, c'est de là n'est plus acceptable.
Ma grand-mère est malade et puis aussi ma mère est malade. C'est cette maladie même qui a fait que mon père m'a quitté. Depuis 2010, moi j'ai compris que c'est cette maladie que j'ai. Pour moi, personnellement, c'est pas grave. Parce que ce que j'ai mis dans ma tête, tant qu'on est en vie, un jour, on trouvera le médicament pour ça. Pour guérir simplement. Et en attendant, le médicament qu'on a, ça peut calmer. Je vais me marier et avoir des enfants. Même du très bon boulot.
Et t'as une amoureuse?
Ben oui.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Oui, c'est une fille de ma classe. Bon, elle est belle. Et aussi, elle est le premier de notre classe. Moi je suis le deuxième.
Est-ce que tu lui as déjà parlé de ta maladie ou jamais?
Oui, j'ai déjà parlé de ma maladie. Et elle dit que c'est un don de Dieu. Si c'est ça, quand même, ce n'est rien. Il suffit de prendre des médicaments, que j'aille de courage, tout comme ça.
Elle dit que c'est un don de Dieu.
Oui, c'est un don de Dieu. Elle dit que c'est pas grave.
La société malienne face au sida, combattre les préjugés, reportage de Tara Schlegel, réalisation Annie Bro. Nous sommes toujours avec Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, présidente du SIDAction, et avec Bruno Spier, directeur de recherche à l'INSERM, président d'honneur de l'association AIDE. C'est pas grave, dit l'amoureuse de ce jeune homme qu'on vient d'entendre. Bruno Spier, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on mène une vie normale sous traitement?
Aujourd'hui, si on est traité et que les traitements marchent, qui est le cas pour quasiment 95% des gens, oui, on peut mener une vie normale et surtout, on ne transmet pas le virus à autrui. Et je crois que c'est un message qui n'est pas suffisamment dit à la fois à la population, mais aussi aux politiques de façon générale, pour bien expliquer que en finançant les traitements, on finance non seulement la vie des gens, mais on stoppe l'épidémie sur le moyen et long terme.
Donc on ne transmet pas le virus, c'est effectivement important de le souligner quand on suit bien son traitement. Des traitements qui sont quand même encore lourds, qui ont des effets secondaires, c'est pas une vie tout à fait facile quand même.
Les traitements sont de moins en moins lourds. Aujourd'hui, on peut prendre un traitement qui peut se résumer à un comprimé chaque jour pour une grande majorité de personnes. Au pire, on a deux comprimés.
Est-ce que vous compareriez aujourd'hui une personne qui vit avec le VIH avec une personne diabétique ? C'est du même ordre en termes de vie quotidienne ?
Alors d'un point de vue médical, je pense qu'une personne diabétique a des contraintes, dans le sens où elle est obligée de regarder sa glycémie, elle est obligée de... Il y a des choses beaucoup plus contraignantes d'un point de vue médical. Le problème, c'est le regard de la société. Il n'est pas jugeant pour les personnes diabétiques. Il est beaucoup plus jugeant pour les personnes qui vivent avec le VIH. Et c'est bien ça. Je pense que tout votre reportage montre bien que c'est bien le regard de la société qui empêche les gens d'aller se faire dépister, qui les empêche de se traiter. Et que une des réponses à ça, c'est justement l'approche communautaire avec des associations de personnes concernées par le virus pour justement se soutenir, renforcer l'estime de soi. Et c'est justement le rôle d'union d'associations internationales comme Coalition Plus qui promeut cette démarche communautaire dans le monde.
Tara Schlegel. Oui, Françoise Barré-Sinoussi, c'est vrai que cette non-transmission du virus, comment s'explique-t-elle médicalement ? C'est-à-dire que la charge virale baisse énormément quand on est sous traitement, c'est ça ? Et on ne transmet pas au bébé et on ne transmet pas non plus à son partenaire, par exemple ?
Exactement. En fait, dès que les personnes reçoivent le traitement, et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs qu'ils sont dépistés tôt et qu'ils sont traités tôt, à ce moment-là, ça bloque la réplication, la multiplication du virus, et ils ont un virus quasiment indétectable dans le sang, mais aussi au niveau des sécrétions génitales, mais aussi au niveau du lait, mais aussi. Et donc, le virus n'est plus transmis à d'autres. Et cela, ça a été totalement prouvé.
Mais alors, comment expliquer que ce soit peu connu, en fait ? Parce que, par exemple, moi, je ne pensais pas que quelqu'un qui est atteint par le VIH et qui se soigne peut avoir des relations sexuelles sans protection avec son partenaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait, si ?
Ça dépend. Et certains le savent, d'autres pas.
Message qu'on fait passer, en tout cas.
Le message passe peut-être pas assez. Peut-être aussi parce que ce qu'on essaye aussi de faire avant tout, c'est que les gens se protègent.
Exactement.
C'est la première des priorités, c'est quand même de se protéger. Et donc, de se protéger et de se faire dépister. Je crois qu'il faut quand même ne pas oublier la prévention, me semble-t-il.
Il faut rappeler que des gens meurent toujours du sida aujourd'hui, en particulier à cause d'une très forte inégalité d'accès aux soins. On voit le retard de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Comment ça s'explique, ces zones géographiques, où il y a encore autant de difficultés à faire progresser les choses, Bruno Spire ?
Je pense qu'il y a encore beaucoup d'absence de volonté politique dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. D'autres pays africains, par exemple au Rwanda, où il y a une volonté politique beaucoup plus importante pour avoir de bons indicateurs, pour que les gens soient dépistés, pour que les gens soient traités. Et là, c'est relégué au second couteau, voire au troisième couteau. C'est-à-dire que c'est considéré comme un problème technique. Les politiques ne s'engagent pas assez.
Mais pour quelles raisons ? Est-ce que c'est pour des raisons culturelles ? Est-ce qu'il y a des vraies différences d'un pays à l'autre d'Afrique sur ce plan-là ou...
Alors peut-être que dans les pays d'Afrique de l'Est, la prévalence en population générale est plus importante. Donc du coup, se sentent plus concernés.
La prise de conscience a eu lieu.
Il y a plus de malades au global. Et donc du coup, ça est obligé d'arriver jusqu'aux politiques. Peut-être que dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ça n'est pas le cas. En tout cas, nous, les associations françaises, on aimerait que nos politiques à nous, pas seulement... s'investissent dans l'augmentation du financement, mais aussi et surtout montrent un leadership politique avec leurs homologues africains. Parlent du VIH lors des sommets africains avec les chefs d'État. C'est ce genre de choses qui pourront peut-être faire bouger les choses.
Mini parenthèse, juste, moi je voulais dire qu'on n'a pas pu voir les membres du Haut Conseil National de lutte contre le sida au Mali, ils ont refusé de nous rencontrer, c'est-à-dire l'équivalent du ministère de la Santé qui s'occupe du sida au Mali. Ils ne voulaient pas nous voir, nous les journalistes. Est-ce que c'est parce que le VIH concerne de manière plus importante les prostituées, les homosexuels ? Est-ce que c'est pour ça que Ils ne font pas plus d'efforts, Madame Barrès?
Alors, ça va dépendre un petit peu des pays et des gouvernements. Si on pense à certains pays, on parle de l'Afrique, mais pensons aussi à ce qui se passe en Europe de l'Est et en Asie centrale, où il n'y a aucune justement volonté politique ni décision politique pour la prise en charge justement des personnes concernées par le VIH, pour les raisons justement que vous évoquez. C'est inadmissible. C'est inadmissible parce qu'ils vont avoir un retour absolument catastrophique, justement, au niveau de l'ensemble de la population de ces pays. Et puis, au niveau individuel, totalement à l'encontre, simplement, du respect des droits de l'homme, de ne pas prendre en considération, justement, ces populations concernées. Donc, c'est vrai que on souffre encore au niveau de l'Afrique, au niveau de bon nombre de pays, et y compris, j'allais dire, chez nous, de toujours ce côté exclusion, justement, des populations concernées, qu'il faut absolument, justement, arriver à atteindre pour le dépistage, pour l'accès aux soins, pour l'accès au traitement.
Mais alors, justement, par rapport à cette forte discrimination qu'on voit, notamment au Mali, de ces populations clés, qu'est-ce qu'il faudrait, puisque ces associations-là qui sont très actives au quotidien, est-ce qu'elles doivent prendre acte de la situation actuelle et puis mener discrètement des opérations ciblées, ou est-ce qu'elles doivent aussi essayer d'y aller au coup de poing pour faire changer les mentalités ?
Bruno Spire, oui, parce que par exemple, on entendait que le Bintou Dembélé disait on ne peut pas faire de campagne aujourd'hui de sensibilisation exclusivement à destination des homosexuels de façon ouverte.
C'est vrai, mais ce que fait Arcade, c'est aussi de faire participer les populations clés dans la réponse, et c'est ça l'approche communautaire, c'est-à-dire que les programmes de dépistage des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes se font par des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, qui sont intégrés à l'équipe, qui font venir ces personnes au sein d'Arcade, au sein des centres qui prennent en charge ces personnes et qui font tout pour les empêcher de devenir séropositives, en moins suivant les IST, en proposant du dépistage régulier. Et cette intégration, ce rôle social est très important pour l'estime de soi, pour la visibilité, et ça devrait, on espère, faire changer les mentalités. Ça prendra du temps, mais ça fera changer les mentalités.
Alors, dans le reportage de Tara, on entendait mis en évidence un gros problème, c'est celui de la non-observance du traitement chez les adolescents. Françoise Barrès-Sinoussi aussi, quelle est la conséquence d'une interruption du traitement ?
Alors, la conséquence, bien sûr, le virus commence à nouveau à se répliquer, à se multiplier, et donc la personne risque de développer bien sûr des symptômes si elle ne reprend pas son traitement et si elle n'est pas en contact avec les médecins pour reprendre son traitement. Pendant cette période, elle peut en infecter d'autres. Et puis, on sait aussi que si l'interruption de traitement est assez longue, elle peut développer ce qu'on appelle des résistances au traitement. Et donc, elle risque d'infecter aussi des personnes avec des virus qui vont être résistants aux médicaments. Ça, c'est quelque chose qui est à prendre en considération, parce que c'est vrai que l'on voit en ce moment, alors c'est une tendance dans quelques pays africains et aussi en Asie du Sud-Est, un petit pourcentage d'augmentation de virus qui circulent et qui sont résistants au traitement, y compris chez des personnes nouvellement infectées. Et ça, c'est quand même préoccupant.
Mais résistant au traitement, ça veut dire qu'on ne sait pas comment traiter ce virus-là. C'est-à-dire que les gens vont mourir du sida.
Pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir non plus. Il n'y a pas de panique à avoir dans le sens où, quand je dis résistant au traitement, ce qu'on appelle de première ligne, c'est-à-dire la première combinaison thérapeutique pour traiter les patients. Mais on peut venir avec une deuxième combinaison thérapeutique pour les traiter. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique, je dirais. Mais sur le long terme, il peut y en avoir. D'abord parce que la troisième combinaison thérapeutique est assez peu accessible encore dans les pays pauvres, malheureusement.
Elle coûte très cher.
Elle coûte très cher. Elle coûte plus cher que la première, en tous les cas, bien plus cher. Et puis sur le long terme, on a un nombre encore, limité de combinaisons thérapeutiques.
Mais alors, Bruno Spire, ces adolescents, comment est-ce qu'on arrive à leur faire prendre leur traitement, puisqu'on mesure bien à quel point c'est important?
C'est certainement déjà en sensibilisant les parents, en faisant aussi, en s'occupant avec une prise en charge globale des familles, en faisant que les mères, on arrive, Bintou en a parlé dans le reportage, cette gestion du secret de travailler avec les femmes par rapport au secret qui est aussi un obstacle à l'observance. Et c'est la même chose pour les enfants. Donc c'est un peu toutes ces pistes qui sont développées par les personnes elles-mêmes au sein d'associations communautaires qui permettront de trouver, de faire qu'il y ait une solution pour résoudre les problèmes d'observance.
On voit qu'il y a encore des bébés contaminés par leur mère. Est-ce qu'au nom de la santé du bébé à naître, il faudrait rendre systématique, voire même obligatoire, le dépistage des femmes enceintes? Françoise Barécine aussi.
Je dirais le dépistage des femmes enceintes, normalement, il se fait déjà de façon systématique aujourd'hui. Donc
mais pas au Mali, hein? Enfin, en tout cas pas officiellement, même parce que moi, par exemple, on a rencontré des médecins qu'on n'entend pas là dans le reportage, qui sont responsables du service gynécologique de l'hôpital Gabriel Touré, donc gros hôpital, et le docteur responsable nous disait que lui, il était contre le traitement systématique et obligatoire, le dépistage, pardon, systématique et obligatoire des femmes, parce que il voulait une sorte d'adhésion de la personne dépistée à l'idée d'un traitement.
Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Je pense qu'on est quand même dans le dépistage systématique, mais consenti. C'est-à-dire, on n'est pas là à le rendre obligatoire. Pour moi, il faut responsabiliser en les personnes concernées et donc leur proposer le test.
Ça se fait, oui, effectivement.
Et ça se fait. La proposition du test, il est généralisé au niveau des femmes enceintes et même il devrait être largement généralisé, beaucoup plus que cela, au-delà des femmes enceintes. Donc oui, le test systématiquement proposé, bien sûr, il faut le faire.
Concernant les homosexuels, on a vu que la prévalence du VIH était plus importante chez eux que dans la population globale. Mais c'est le cas au Mali, c'est le cas en France aussi, Bruno Spire.
C'est le cas dans tous les pays du monde. La prévalence des homosexuels est extrêmement, toujours beaucoup plus importante. Et on a une épidémie qu'on appelle concentrée. Et dans le contexte français, on a montré qu'un homme homosexuel a 200 fois plus de risques que la population générale d'attraper le VIH. Et en disant ça, je pense que c'est très important de dire que c'est pas pour stigmatiser une population. C'est vraiment pour que les moyens soient mis sur cette population. Et il faut plutôt tirer de ces chiffres une révolte en disant c'est pas là encore, on est dans une inégalité et il faut se battre contre ça. Et il faut donc qu'il y ait plus de moyens pour la prévention auprès des hommes homosexuels que dans la population générale.
Pour donner un chiffre justement, donc la prévalence auprès des homosexuels au Mali est de 13% et en France, la prévalence que moi j'ai vue sur le site de l'ONU SIDA est de 17%. Est-ce que ça veut dire qu'en France, proportionnellement, les homosexuels seraient plus atteints par le VIH qu'au Mali, par exemple, Bruno Spire?
Bon, les enquêtes sont dans des contextes très différents. Donc pour moi, on est dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on est dans des épidémies bien plus importantes qu'en population générale. Et ce qui est important, ce n'est pas tant aussi la prévalence, mais c'est aussi la prévalence de personnes qui sont séropositives et qui ne sont pas traitées. Parce que ce qui va être important d'un point de vue de santé publique, c'est ceux qui ne sont pas traités. On peut avoir beaucoup d'homosexuels séropositifs, s'ils sont traités, il n'y a pas de risque de transmission au sein de leur communauté. Encore une fois, ceux qui transmettent, c'est ceux qui n'ont pas été dépistés.
Françoise Barécine aussi, il y a des recherches très encourageantes sur des médicaments nouvelle génération. Vous voulez bien nous en dire un mot? Parce qu'effectivement, les traitements sont de moins en moins lourds, disait Bruno Spire. On pourrait faire encore mieux.
Oui, il y a déjà les mêmes traitements, je dirais, mais sous forme allégée. Certaines personnes aujourd'hui ne prennent plus de trithérapie, mais une bithérapie, par exemple. Bruno parlait tout à l'heure de l'allègement avec un seul comprimé par jour, voire deux maximum. Mais il y a aussi tout le futur. Et le futur, c'est d'aller vers, si ce n'est la guérison, je dirais la rémission, à savoir un traitement que les personnes pourraient prendre pendant un certain temps, arrêter et contrôler par eux-mêmes leur virus sans le transmettre à l'autre et aller très bien.
Traitement qu'on ne prendrait plus à vie.
Voilà. Et là, il y a plusieurs pistes envisageables qui sont à l'étude. Il y a eu aujourd'hui une publication dont vous avez peut-être entendu parler, française d'ailleurs, mais un seul cas, hein, pour l'instant il faut rester extrêmement prudent, d'un patient infecté par le VIH sous antirétroviraux qui a développé un cancer du poumon et pour son cancer du poumon, étant donné qu'il ne répondait pas au traitement classique du cancer du poumon, il a eu un médicament qui est contre une protéine qui est importante pour le cancer, mais aussi pour la persistance du VIH. Cette personne a bien diminué la quantité de virus et a une défense immunitaire plus forte. Donc c'est encourageant. Une personne, ce n'est pas suffisant, il faut attendre, il va y avoir plein de données dans l'avenir.
Et le vaccin ?
Le vaccin, alors là aussi, c'est en plein, j'allais dire, développement avec des anticorps qu'on sait faire aujourd'hui, qui sont extrêmement puissants et qui pourraient être utilisés pour prévenir aussi l'infection, mais aussi en traitement dans le futur. Bon, c'est en cours.
Et pour aller plus loin, il faudra bien sûr de l'argent. On a entendu tous les deux que ça vous paraissait assez essentiel. Merci beaucoup Françoise Barré-Sinoussi. Merci Bruno Spears. C'était le magazine de la rédaction. La société malienne face au sida, combattre les préjugés. Reportage de Tara Schlegel avec Annie Brault à la réalisation et Inès de Brune à la technique. Vous pouvez bien sûr retrouver ce magazine sur franceculture.fr.